I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur L'Aléa, le podcast pour maximiser le potentiel de sa vie. Artiste, entrepreneur, aventurier, sportif, thérapeute, coach, chaque semaine, vous trouverez les parcours, les témoignages ou les conseils de personnes inspirantes aux profils et expériences variées. Ma mission ? Vous guider dans vos cheminements, votre épanouissement et la poursuite de vos rêves, quels que soient les aléas que vous pourrez rencontrer. Je suis Laura Pouliquène et dans la vie, je chéris les valeurs de l'audace, de la curiosité et du partage. Sortir d'un jeu de télé-réalité et se prendre une vague de haine car on ne correspond pas aux standards de beauté. C'était encore possible il y a 10 ans. Et c'est ce que mon invité de la semaine dans l'Aléa a vécu. Un véritable lynchage public envers une fille de 22 ans qui ne demandait qu'à être aimée. Alors comment on rebondit? Comment on en fait une force? Comment on crée une communauté de plus de 800 000 personnes en restant authentique et parfaitement alignée? J'ai décidé d'inviter Aurélie sur mon podcast pour décrypter son état d'esprit, sa persévérance, sa volonté à toute épreuve. On parle enfance, spiritualité, business, entourage et on s'inspire de son mindset positif en toutes circonstances. Si vous aimez l'épisode, n'oubliez pas, laissez un petit commentaire ou 5 étoiles sur la plateforme de votre choix, Apple Podcast ou Spotify. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Aurélie.
Bonjour Laura.
Je suis très contente d'être avec toi ce matin. Comment tu vas en ce lundi matin? Est-ce que tu aimes le lundi en général?
Alors bah, aujourd'hui ça va bien. Alors le lundi en général j'aime bien. Et ce matin j'ai eu un petit souci avec mon fils. Et donc du coup on a très mal commencé la semaine, je vais pas te mentir.
Ah mince.
Mais voilà, on va rester positif et j'espère que ça va aller mieux.
Bon, rien de grave, j'espère. Hein.
Non, rien de grave. Tu sais, parfois en famille, avec le stress du lundi matin, l'école, les embouteillages, etc. Mais voilà, c'est des petites choses, on va dire.
C'est clair. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Aurélie, est-ce que tu peux tout simplement commencer par te présenter, s'il te plaît?
Oui. Alors, je suis Aurélie Van Dalen, je suis belge, je vais avoir 35 ans la semaine prochaine. Je suis maman d'un petit garçon qui s'appelle Farel. J'ai été connue par le grand public en Belgique d'abord à ma participation à Miss Belgique en 2009. Et puis en 2012, j'ai participé à l'édition Secret Story 5, ce qui m'a fait connaître vraiment sur les territoires français, on va dire. Et après, bah, j'ai participé aussi aux anges de la télé-réalité, puis je suis devenue chroniqueuse télé, chroniqueuse radio, et aujourd'hui, ça va faire 7 ans que j'ai mon entreprise de créatrice de contenu, donc autrement dit blogueuse, et j'ai aussi mon entreprise de décoration d'intérieur et de rénovation, depuis 2 ans.
Waouh ! Que de belles et grandes choses pour 35 ans, bravo à toi. Déjà, c'est exactement les parcours comme ça qu'on aime sur le podcast. Donc, on va essayer de décortiquer ça et d'en savoir un petit peu plus sur toi. Mais d'abord, on va faire un petit retour en arrière. Déjà, quelle petite fille tu étais? Quel était ton rapport aux autres, au monde? Et est-ce que tu savais ce que tu voulais faire? Est-ce que tu avais des rêves?
Mais justement, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, j'étais plutôt une petite fille qui avait envie de rentrer dans les cases, qui essayait de pas trop faire de bruit. J'ai eu un schéma familial assez compliqué. Donc voilà, j'ai grandi seule avec ma maman. J'avais un géniteur, effectivement, mais ma maman a dû s'en séparer quand j'avais 2 mois. Et puis, j'ai rencontré l'amour de ma vie, qui était mon papa, mais mon papa adoptif à 6 ans. Mais donc, la petite Aurélie, vraiment, de sa naissance jusqu'à ses 6 ans, chose que je m'en souviens très récemment, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai appris sur moi grâce au développement personnel, etc., parce que c'était vraiment dans mon subconscient, je ne conscientisais pas tout ça, mais j'ai pas mal souffert de cette instabilité et de ce manque de figure paternelle au quotidien dans mon foyer. Et donc, en fait, j'étais une petite fille qui voulait déjà tout de suite rentrer dans les cases et plaire à tout le monde. Et j'avais l'impression un petit peu que l'amour que je pouvais recevoir d'autrui était vraiment sous condition. Et donc, ça a fait en sorte que cette petite fille voulait tout le temps aller plus loin, voulait être de plus en plus parfaite, n'avait pas peur finalement, mais avait envie de faire toujours plus pour pouvoir avoir de l'amour et de l'attention, on va dire, des autres.
Ouais, je vois. Et donc, du coup, tu étais une petite fille voilà, qui allait de l'avant, qui était volontaire, mais plus tu as l'impression pour rechercher cette validation et cet amour extérieur. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu sais à quel moment c'est remonté tout ça à la surface et tu as conscientisé que finalement tu avais besoin peut-être d'aide et d'aller fouiner à l'intérieur de toi pour te connaître mieux et pour te guérir entre guillemets.
Oui, alors c'est un sujet sur lequel j'ai pas encore vraiment parlé parce que c'est assez frais, mais en fait ma dernière relation amoureuse était chaotique. Et cet été, d'ailleurs, les nanas qui me suivent vraiment au quotidien l'ont remarqué, j'étais beaucoup moins présente. On sentait qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas, qui n'allait pas. Et je me suis retrouvée vraiment dans un trou noir. J'ai passé à une très grosse période noire de ma vie. Et on dit souvent que c'est quand on est au plus bas qu'on va chercher vraiment ce qu'il y a au plus profond de soi et de la personne la petite fille que j'ai été et pourquoi et qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie et quel chemin de vie m'attend, pourquoi, quelle mission de vie à mon âme sur cette planète, etc. Et donc voilà, au final, c'est vraiment cet été, un petit peu avant l'été, je me suis vraiment, vraiment beaucoup concentrée sur mon côté spirituel et ce côté de développement personnel pour pouvoir comprendre pourquoi j'attirais ce genre de personnes qui pouvaient m'aimer sous condition, justement.
Ouais, exactement.
Et qu'au final, c'était parce que je m'aimais sous condition. Et c'est pour ça que je suis aussi très, très présente et très attentive à tout ce qui est développement personnel et que je commence à essayer d'en parler aussi sur Instagram parce que je pense que ça peut aider pas mal de nanas qui me suivent depuis très longtemps.
Complètement. T'as fait des pratiques pour t'aider sur cette problématique-là?
Effectivement. Alors, quand on commence, on sait jamais par où commencer parce que on sait pas à quoi s'attendre, etc. Donc, en fait, j'ai été entourée par une coach de vie, une kinésiologue, une énergéticienne et une thérapeute. Et en fait, au fur et à mesure, donc j'avais commencé avec la coach, puis j'avais fait un petit peu le tour, puis j'ai commencé avec ma kinésio qui était en parallèle avec ma thérapeute. Puis il me fallait encore plus parce que je sentais que mes énergies, ça allait plus du tout, que tout était en train de se basculer. J'ai fait appel à une énergéticienne qui est d'ailleurs très présente aussi sur les réseaux sociaux. C'est Virginie Gazzola, elle est géniale, elle fait ça à distance. C'est vrai que pourrait se dire que à distance, on se méfie un petit peu et on est sceptique, mais elle fait vraiment des miracles. Et donc en fait, globalement, je me suis concentrée sur la petite fille, la petite fille Aurélie et Aurélie aujourd'hui pour pouvoir mieux avancer. Je me suis vraiment recentrée, on va dire, sur l'essentiel. Et c'est difficile à dire quand on est maman parce qu'on dirait que l'essentiel, c'est nos enfants. Mais en fait, l'essentiel pour que même mon enfant aille bien,
exactement,
c'est moi, pour pouvoir reprendre les rênes en main.
Exactement. C'est Anne Cazemont que j'avais reçue sur le podcast qui disait un parent qui travaille, c'est un, sur lui est un enfant qui va bien, et c'est exactement ça. Et pour éviter aussi de lui passer ses bagages émotionnels, ses bagages que on se traîne de génération en génération. Donc bravo à toi Aurélie, c'est génial, ouais. Vraiment. Et j'espère que ce sera voilà le début aussi d'un mieux-être et d'une belle connaissance de toi. Toi, t'as fait des études de commerce, communication, marketing. T'avais une idée de ce que tu voulais faire. Alors, hormis le fait que voilà, tu voulais recevoir l'amour de tes proches et donc faire des belles études.
En fait, je vais pas vous mentir, je suis plutôt le genre de nana qui n'a pas de plan de vie.
Ouais.
Je me suis dit, mais Auré, ça va pas, il faut vraiment que tu te fasses un plan de vie. En fait, il y a un truc qui m'intéresse et comme je suis ultra entière, et ben je vais le faire à fond. Et c'est vrai que à l'époque, c'était les études de communication marketing parce que j'avais fait déjà un travail de fin d'année en humanité sur la communication dans une entreprise. Et donc voilà, je voulais vraiment rentrer dans ce milieu-là. Et après, voilà, j'ai pas terminé mes études, donc c'est bête, parce que j'ai fait 2 ans et c'était 3 que je devais faire. Je les ai arrêtées parce qu'après, j'ai participé à ce concours de Miss Belgique qui m'avait pris tellement de temps et que ça aussi, j'ai voulu faire à 100%. Et donc, du coup, j'étais trop concentrée là-dedans. Ouais. Mais au final, ça m'a donné un bon bagage pour tout ce que j'entreprends aujourd'hui.
D'accord. On te connaît du grand public avec cette émission de télé-réalité qui a fait grand bruit, Secret Story. Moi, je me souviens de l'époque où tu étais, je regardais. Tu avais un secret commun avec Geoffrey et Marie, qu'on n'entend plus trop d'ailleurs, pour le coup. Tu es une des seules, je crois, encore aujourd'hui qu'on connaît hein, de l'aventure. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de voir encore les autres. Comment, toi, tu arrives dans cette émission et surtout, pourquoi tu acceptes ?
Alors, juste avant de rentrer dans l'émission, chose qui est importante pour les personnes qui nous entendent aujourd'hui pour qu'on comprenne un petit peu les schémas dont je parlais là tout à l'heure, je sortais de ma première relation amoureuse qui était toxique à mort. Ouais. À cet âge-là, j'avais 21 ans, à cet âge-là, tu te rends pas compte que tu as peut-être un rôle à jouer là-dedans, tu te remets pas en question. Et donc, en fait, j'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir cette relation qui me pesait, qui était très, 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 très dure pour moi. Vraiment, elle m'anéantissait. C'était très compliqué. Et donc, en fait, quand j'ai rompu avec mon premier amour, j'ai commencé à... j'ai rencontré Geoffrey, donc Geoff, avec qui j'allais faire cette émission.
D'accord.
Mais Secret Story m'avait déjà contacté en moi en privé parce que il m'avait repéré par Miss Belgique. Premier casting, j'ai été seule. Et donc, ils ont bien aimé ma personnalité et ils ont voulu me donner un secret de famille. Et donc, en fait, comme je vous ai expliqué, ils voulaient mettre dans la maison un autre enfant de mon géniteur que je ne connaissais pas. Et donc, du coup, j'aurais dû retrouver mon frère ou ma sœur, mais que je ne connaissais pas.
Ah oui.
Chose que j'ai refusée par... respect et par fidélité pour mon papa adoptif. C'était mon papa, personne ne savait qu'il m'avait adopté. Voilà, pour tout le monde, c'était mon papa. Donc, ça aurait été un affront pour lui, pour moi. Voilà, c'était un secret de famille que je ne voulais pas révéler à l'époque. Et donc, en fait, j'ai refusé. Et en fait, ils ont tellement aimé ma personnalité qu'ils m'ont demandé « Oui, mais enfin bon, explique-nous un petit peu ta vie. » Et donc là-dessus, j'explique que je sors d'une relation ultra toxique et ils me demandent si j'ai envie de revenir avec mon ex. Alors, là-dessus, j'étais déjà, moi, le mode jeu était déjà enclenché parce que c'était pour moi, mais impensable de rentrer dans cette émission avec mon réel premier amour. Et donc, du coup, ce Geoffrey qui était rentré dans ma vie une semaine avant, je l'ai appelé, j'ai dit « Tu fais quoi demain ?» Il m'a dit « Rien ». J'ai dit « Bah, tu viens avec moi à Paris, on va passer le casting de Secret Story ». Et donc, tu sais, Bruxelles-Paris, c'est 3h30 de route. Et pendant les 3h30, on s'est mis d'accord sur une version. En fait, on s'est passé pour deux ex alors que je le connaissais depuis une semaine, quoi.
D'accord.
Parce que pour pouvoir rentrer dans l'émission, il y a la production qui m'a appelée et qui m'a dit « Aurélie, bah voilà, on aimerait vraiment vous avoir dans cette édition, mais est-ce que vous êtes capable de vous remettre ensemble pour l'émission ?» Et là, en fait, Geoffrey et moi, on s'est dit, bah, ok, on va faire comme si on était en couple, en fait. Et donc, pour la petite anecdote très gênante dans la vie d'une femme, c'est que la toute première fois où lui et moi on s'est embrassés, c'était pour tourner notre générique. Donc, il y avait 3 caméras autour de nous. Ouais. C'était ultra amusant. Mais bon, voilà, j'avais tellement envie de passer à autre chose, faire autre chose de ma vie. Et même sans me rendre compte de l'ampleur que ça allait donner. Parce que voilà, à l'époque, la télé-réalité, tu te doutais pas que ça allait changer ta vie comme ça?
Non.
Il y avait une nouvelle porte en tout cas qui s'ouvrait à moi, j'avais envie d'y aller et voilà, je l'ai fait.
Je me souviens ça, de ton tempérament, je pense qu'on ne pouvait pas passer à côté, tu étais vraiment une des grandes figures de l'émission à cette époque. Et donc du coup, de cette aventure, de Secret Story, quel souvenir tu en gardes 12 ans après? Donc ça fait déjà un petit chemin. Quelles sont les images qui te viennent de cette époque?
Je ne peux pas cracher dans la soupe, très honnêtement, parce que je n'en serais pas où j'en suis aujourd'hui si j'avais pas fait cette émission qui m'a quand même servi de tremplin, même si j'en étais pas consciente à ce moment-là. Secret Story, c'est une aventure à part entière. En fait, c'est un enfermement pendant 3 mois et demi avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça a été un début de ma connaissance de soi. Je suis restée pendant 3 ans là, 3 mois et demi là, mais je suis ressortie avec une valise de 2 ans parce que je ne savais pas que je pouvais mentir comme ça, essayer de manipuler pour pouvoir, essayer de gagner un jeu, que j'étais aussi compétitrice, etc. Donc, au final, moi, j'en retiens que le positif. J'ai aimé participer à ce jeu parce que j'aime les aventures de ce style. Et puis moi, au final, ça m'a apporté que des bonnes choses par après, vu qu'aujourd'hui, c'est vrai. Quand on parle, par exemple, que de ma saison, je pense dans ma saison, je suis la seule aujourd'hui à encore faire partie du milieu et de qui continue à être dans les médias de façon, on va dire, propre. Hein. Donc au final, je pense que j'en garde vraiment un bon souvenir.
Ouais, mais en fait, ce qui est assez bâtard entre guillemets dans ces émissions, c'est qu'en fait, comme c'est de la télé-réalité, on part du principe où les gens, ils sont un peu entre guillemets débiles, alors que pas du tout. Quand on parle avec toi aujourd'hui et quand on te connaît, quand on te suit, on voit que t'es une super nana. Et je comprends très bien ce que tu dis quand je pense que t'as trop kiffé cette aventure de vie, parce que tu t'es fait des potes, parce que c'est une aventure où tout est décuplé, tous les sentiments sont décuplés. Et en fait, c'est super dur parce que je pense que quand tu sors, au même temps, c'est un raz-de-marée. D'ailleurs, j'aimerais bien que tu nous en parles. Voilà, ce comment t'as vécu aussi, cet avant et cet après où tout le monde te reconnaît dans la rue et tout ça.
Ouais, je pense que ce qui a changé avec la télé-réalité d'aujourd'hui, c'est qu'avant, on n'était pas du tout conscient de l'impact que ça pouvait avoir. Aujourd'hui, les candidats, ils savent, ils font eux-mêmes des scénarios, tout est scénarisé pour pouvoir après avoir des bookings, des placements de produits, etc. Moi, je suis rentrée petite innocente dans cette télé-réalité. Les caméras, je les avais très vite oubliées. J'ai fait mon petit bout de chemin. Et en fait, comme tu n'as aucun contact avec l'extérieur, t'oublies l'extérieur. Et je me souviendrai toujours pendant un prime, j'avais eu la voix, je pense, au téléphone et j'avais entendu le public me huer. Mais forcément, ils pensaient que j'étais en couple depuis 7 ans avec un jeuf. Et en fait, rentrée dans la maison, je me rends compte que c'est un gars ultra hypocrite avec qui j'ai pas du tout envie d'être associée. Au final, on me déteste parce qu'on me dit, mais attends, cette nana, ça fait 7 ans qu'elle est avec son gars, elle rentre dans Secret Story, après une semaine, elle le calcule plus. Donc, je me souviens l'impact que ça avait eu sur moi parce que, encore une fois, j'avais cette blessure d'injustice où je me disais, mais tout le monde me déteste encore une fois. Et donc, ça a été très, 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 très dur pour moi. En fait, comment expliquer? C'était dur pour moi de voir, encore une fois, toute cette injustice que les gens ne m'aimaient pas pour la personne que j'étais, parce qu'il faut savoir que dans une télé-réalité, ils prennent vraiment les moments qui leur plaisent pour les montages. Donc en fait, eux, ils montrent au grand public 40 minutes d'une journée, alors qu'il y en a 24 heures. Et après, tu te rends compte que parfois, j'avais des missions pour aller engueuler Marie et comme ça faisait monter ma cagnotte. Je pensais que le téléspectateur voyait que c'était une mission, sauf qu'en fait, non, c'était juste pour me donner cette étiquette de la nana qui pète un câble pour un oui ou pour un non. Donc ça, c'était injuste. Et puis en fait, quand je suis sortie de là, là, la presse a été vraiment très très hard avec moi. Enfin, j'avais 22 ans, j'étais en couverture des magazines en disant la grosse baleine belge dégoulinante de graisse, elle est échouée, etc. Et en fait, ce poids m'a suivie. En fait, le fait que je sois ronde, que je sois pulpeuse, que je ne fasse pas un 36, m'a suivie pendant toutes ces années. Et c'est ça, en fait, que je trouve tellement dommage. C'est que même le présentateur, maintenant, si on peut parler de Benjamin Castaldi, qui, lui, en fait, pour amuser la galerie, était obligé de dire que mon meilleur ami était le pot de Nutella, ici et ça. Et en fait, finalement, c'était du lynchage public. Et la seule chose qui m'a sauvée, c'est d'être bien entourée, d'avoir un super papa, d'avoir une super maman qui était là et qui, à ce moment-là, en fait, m'ont dit « Mais peu importe, nous, on t'aime quoi qu'il arrive. » Et là, pour la première fois, ça a été vraiment où moi, je me suis reprise en charge, où je me suis dit « Ok, c'est pas grave. » Et puis, en sortant, ce qui m'a aussi fait du bien, c'est que tu avais toute cette partie, une autre communauté, qui adorait justement le fait de pas toujours avoir des nanas qui font un 36 à qui elles peuvent s'identifier. Mais c'est dingue parce que quand je te dis ça, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de juste milieu. C'est soit, en fait, dans ce monde de télé, c'est soit tu fais un 36 et t'es la plus bonne des plus bonnes et c'est génial et toutes les portes s'ouvrent. Soit, en fait, t'es grosse et t'es moche. Tu vois, il n'y a pas de, elle est ronde et elle est belle et y aura toutes les portes qui vont s'ouvrir aussi. Et donc, au final, tout le monde, j'ai déjà entendu des gens dire, oui, mais c'est facile, elle a fait de la télé-réalité, c'est facile, elle a si. Mais ça a été deux fois plus dur pour moi parce qu'il a fallu vraiment que j'aille ouvrir les portes moi-même pour leur dire, mais attendez, c'est pas parce que je fais pas un 36 que je suis pas capable de faire présentatrice télé ou de faire une autre télé-réalité ou d'avoir un mec ou de faire ci ou de faire ça. Donc, en fait, tout ce monde-là a été réellement cruel avec mon physique. Et comment veux-tu à 22 ans ne pas perdre confiance en toi? C'était inévitable. Donc je me suis renfermée et j'ai vraiment pris du temps avec mes parents, etc. Qui finalement était une bonne chose.
Bravo pour avoir sorti la tête de l'eau de tout ça. Et tu as réussi à en faire une force. Et moi je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup qui réussissent à en faire une force. Parce qu'aujourd'hui, issus de télé-réalité qui aujourd'hui n'ont plus trop cette image télé-réalité, il y a Caroline Receveur, il y a toi. Qu'est-ce que t'as fait en fait, au moment voilà où t'es sorti un peu la tête de l'eau, quelles sont les premières pierres que tu as posées?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis sortie de là très peu de temps après, mon papa est décédé. Donc et pour moi, ça a été une remise à zéro. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'ai rencontré le papa de mon fils qui habitait à Lille et j'ai dit ok, je quitte la Belgique. Je repars à zéro. Et donc, là, je suis partie à Lille et c'est là où j'ai commencé, par exemple, à faire cet institut de beauté. Parce que voilà, je voulais faire les ongles. Je voulais pas seulement faire les ongles. Encore une fois, je voulais faire les choses à fond. Et donc, du coup, on avait commencé à faire un institut de beauté. Et quand Farrell est né, donc 3 ans après mon déménagement, là, il y a l'émission Le Mag sur Énergie 12 qui m'ont rappelé pour redevenir chroniqueuse télé. Et donc là, j'ai accepté à ce moment-là. C'était même un petit peu avant que j'ai Farrell parce que je me souviens de faire les émissions quand j'étais enceinte. Et après, quand j'ai eu Farrell, j'ai fait un burn-out là-bas parce qu'encore une fois, je n'en pouvais plus. Et j'en pouvais plus parce que je me donnais à fond, donc je faisais des allers-retours 4 fois par semaine, Lille-Paris, pour aller travailler, pour être sur les émissions. Parfois, on me disait, ben non, aujourd'hui, en fait, t'es là, mais tu feras que 3 minutes d'émission. Ou bien, dans l'oreillette, on disait à mes collègues, qui sont magnifiques, hein, c'est rien contre elles, encore une fois, mais personnellement, c'était dur. On disait, ah ouais Pichou, t'es trop belle, t'es trop bonne, nanana. Et puis moi, quand j'arrivais, bon, elle avance celle-là. C'était dégueulasse tout ça parce qu'en fait, encore une fois, j'étais pas à leur image parce que c'est ce milieu de télé-réalité, etc. Il faut être comme eux l'ont décidé, sinon toutes les portes se ferment. Et en fait, un jour, j'ai saturé. J'ai dit, je n'y retournerai plus. Et je me souviens très bien que le directeur des programmes d'énergie m'a dit « Tu sais, Aurélie, il y en a 1000 autres qui voudraient prendre ta place. Donc, si t'as pas envie de venir, ton cinéma, t'as qu'à l'arrêter. » Et j'ai dit « Je suis désolée, Stéphane, mais non, je ne reviendrai pas. » Et c'est à ce moment-là où, en fait, je me suis dit « J'étais tellement plus du tout en phase, déjà depuis quelques temps, avec tous ces candidats de télé-réalité qui venaient et tout. Enfin, c'était plus du tout dans mes valeurs et mes principes. » Que je me suis dit, ok, je vais me rapprocher de ma communauté. Et c'est là où, en fait, j'ai commencé à écrire mes premiers articles de blog et que j'ai commencé vraiment à me dire, ok, maintenant, je me donne à fond dans les réseaux sociaux et je deviens créatrice de contenu.
C'était déjà démocratisé ? C'était déjà un métier à cette époque ? Je me souviens plus.
En tout cas, tout ce qui était blog était déjà un métier, oui. Après, moi, je l'ai pas fait pour en vivre. Je l'ai fait parce que j'avais envie vraiment de partager d'autres choses avec ma communauté d'une façon différente. Il y avait déjà quelques candidats de télé-réalité qui faisaient des placements de produits. Et en fait, moi, j'ai refusé. Je voulais pas les faire. Je me souviens qu'il y avait toutes ces marques qui travaillaient qu'avec des candidats de télé-réalité. En fait, c'était vraiment un choix pour moi de me défaire de cette image-là et de ne plus faire comme eux. Donc, pendant quelques mois, vraiment, j'ai refusé toute rentrée d'argent vis-à-vis des placements de produits. Et puis, je pense, après 6 mois, vraiment, où j'allais acheter moi mes produits de beauté, je faisais moi-même mes petites vidéos en disant « Ah ben voilà, ce rouge à lèvres là, il est génial, etc. » Enfin, je pense 6 mois après, j'ai Yves Saint Laurent qui m'avait appelé pour leur campagne des 30 ans, non, des 25 ans du Touche Éclat. Et pour moi, ça a été une porte qui s'est ouverte. Et c'est là où tout a démarré pour moi.
Génial. Et donc, qu'est-ce que tu partageais, toi, sur tes réseaux sociaux ? C'était essentiellement, du coup, de la mode, de la beauté ?
En fait, tu sais, j'ai souvent été... je me suis jamais enfermée dans une case dans les réseaux sociaux. Et ce qui est parfois un petit peu perturbant, parce que du coup... Je partage tout, mais je ne fais pas que de la mode ou que de la beauté. Et hier, en parlant avec une dame avec qui je collabore, qui a pas mal de retours, elle me dit c'est impressionnant comment les nanas qui viennent de ta part ici te suivent pour la personne que tu es et pas seulement pour la mode ou la beauté, etc. Donc, en gros, je dis ça parce que je voulais juste partager ce que je faisais. Donc, c'était un jour... beauté, l'autre ça pouvait être Pharrell qui était bébé, des petits vêtements, ce qui se passait dans ma vie, où j'allais manger. Je voulais juste en fait partager avec mes copines virtuelles ce que je faisais de ma journée et de ma vie. Et au plus je voyais de l'intérêt pour la déco par exemple, au plus j'allais pousser dans cet axe-là pour leur donner ce qu'elles avaient envie.
Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que moi, en préparant cette interview, je l'ai dit à quelques copines que je t'interviewais, des filles qui n'ont rien à voir avec la mode, la beauté, qui sont même à peine sur les réseaux sociaux. Elles m'ont dit « Ah ouais, mais Aurélie, je l'adore, elle est hyper authentique. » Comment tu fais, en fait, pour garder cette authenticité sur tes réseaux ?
En fait, je pourrais pas te répondre... Comment est-ce que je fais pour rester moi-même ? Je peux pas répondre à cette question, c'est juste, je suis moi-même. Je pense que je suis quelqu'un d'entière. Je sais pas faire semblant, mais je peux pas faire semblant avec ma copine que je connais depuis 10 ans, comme avec ma communauté, comme avec le boulanger. S'il y a quelque chose qui me plaît pas, ou qui me plaît, ou que j'ai envie de faire, je ne peux pas te dire autrement que, en fait, je suis comme je suis. Je suis comme je suis, que ce soit sur mes réseaux, dans la vraie vie, avec les gens autour de moi, avec ma famille. Je partage juste d'une façon différente, donc sur les réseaux sociaux, tu vois, que de partager vraiment la vraie vie avec mes amis. Mais je suis souvent, en plus, on me dit, mais c'est impressionnant, t'es la même personne sur les réseaux qu'en vrai. Bah oui, je vais pas faire semblant. Pourquoi est-ce que je ferais semblant ? On m'aime ou on m'aime pas, mais voilà. Et je pense que c'est ça au final. Je sais pas comment ça se fait que j'ai cette image d'authenticité. Je peux juste te dire que je suis 100% entière et que je mens pas.
À quel moment ça a cartonné ? Est-ce que c'était progressif ? Est-ce que c'était vraiment une OP ? Mais comment t'as fait pour que vraiment, voilà, pour prendre en abonné et aujourd'hui avoir la belle communauté de plus de 800 000 personnes, je crois, que tu as ?
Écoute, Oui, c'est venu crescendo. C'est arrivé vraiment au moment où je me suis vraiment concentrée sur les réseaux sociaux. Donc, quand Farrell est né, là, ça a vraiment commencé à monter. Puis, j'ai eu de jolies opportunités niveau travail, comme être ambassadrice du Télévis, toutes ces choses-là. Et puis, comme je fais pas mal de projets, tu sais, la construction, la rénovation de ma maison, les projets déco, tout ça, tu sais, ça attire encore d'autres personnes qui finalement sont intéressées que par la déco et la réno. Donc, je vais dire, je me suis pas réveillée en une fois avec 300 000 followers en plus. C'est vraiment, c'était vraiment, ça a évolué. D'ailleurs, là, pour le moment, ça fait quand même plusieurs mois que ça stagne. Et c'est pas grave. Parce qu'au final, pour moi, le chiffre de mes followers n'est pas grave. J'en ai 20 000, je ferai exactement le même contenu que ce que je fais maintenant. Moi, ce qui m'importe, c'est que ma communauté se sente bien, qu'elle se sente, que je peux leur apporter quelque chose, en fait. Quelque chose en plus dans leur journée, que ce soit une petite phrase, un bon plan, une petite pensée positive, que celles qui ne se sentent pas bien, qui vivent une période difficile ou qui ont besoin de quelque chose, pour que je puisse leur apporter ce petit quelque chose pour lequel elles me suivent.
Mmh, exactement. Ce que j'aime aussi avec toi, c'est ton côté complètement décomplexé. Aujourd'hui, on est beaucoup plus dans l'ère du body positive, donc c'est bien, tu vois. J'ai l'impression en tout cas que ça se enfin qu'il y a vraiment un élan qu'il n'y avait pas forcément il y a encore, tu vois, 4-5 ans. Toi, au-delà de ces critiques, est-ce que voilà, t'étais vraiment dans l'acceptation de ton corps et de tes formes ?
Alors, ça a tout le temps été difficile pour moi. C'est un travail au quotidien, ça l'a toujours été, ça l'est encore, très honnêtement, parce que tu vois, comme je te disais au tout début de ce podcast, moi-même, je m'aime sous condition. Et donc, c'est un travail pour moi de formater mon subconscient et de me dire, mais c'est pas grave, même si tu peux t'aimer, Auré, même si tu as des défauts comme tout le monde, et même si tu fais pas un 38, tu peux t'aimer. Sauf qu'en fait, ma lignée de vie m'a mis dans tellement de situations où je n'ai pas pu faire ce que j'avais envie de faire parce que je n'avais pas les critères de beauté imposé dans ce milieu-là, qu'il m'est arrivé de baisser les bras. Donc voilà, c'est vraiment un travail au quotidien de formater mon subconscient en me disant, ben non, ben c'est pas grave, tu as le droit d'être aimé. Même si tu fais un 42 à la place d'un 36, c'est comme ça. Donc c'est un boulot au quotidien de vraiment changer ton mindset. Maintenant, moi, je suis ultra heureuse de voir que sur les réseaux, il y a pas mal de nanas qui s'assument, ça devient vraiment dans l'air du temps et j'espère que ça va continuer à évoluer. Et même si je m'assume comme je le fais aujourd'hui à travers mes réseaux sociaux, il y a des fois où je voudrais faire plus, mais que je n'y arrive pas, pour être très honnête avec toi. Parfois, je voudrais pouvoir mettre la première photo de moi en bikini, comme ça, à la plage. Bah non, j'ai besoin d'en prendre 10 parce que j'aime pas le petit bourrelet là et que j'ai envie d'être quand même au mieux sur mes photos. Et en fait, c'est parce que je suis dans un milieu où c'est difficile, j'attise beaucoup de jalousie malheureusement. Et donc, autant t'en as qui m'adorent, autant t'en as qui me détestent. Et donc, le premier petit truc qui, moi, va pouvoir me faire flancher, elles vont attaquer. Et c'est ça qui est dur aussi. Donc voilà, en étant 100% transparente avec toi, j'essaye, c'est un travail au quotidien, j'espère pouvoir m'assumer de mieux en mieux et de plus en plus pour pouvoir aider ma communauté et les nanas qui ont ce même problème que moi, mais j'y travaille.
Et comment tu travailles quand t'as des moments down? Comment t'arrives à reprendre du poil de la bête?
Alors ça dépend effectivement quel down, parce que moi j'ai appris qu'il était très important de m'écouter. Et de me faire confiance à moi, à mon intuition, et de m'octroyer un petit peu de temps pour soi. Et avant, je pensais que du temps pour soi, c'était peut-être aller faire un spa, faire un peu de shopping toute seule, etc. Mais non, parce que ça, ce sont des choses qui vont juste t'empêcher à penser à la problématique du moment. Donc, moi, aujourd'hui, ça m'est arrivé la semaine dernière, je crois, lundi dernier, j'étais pas bien. Et je savais que ce jour-là, il fallait que j'ouvre mon journal, que j'écris, que j'allume une bougie, que je réfléchisse, que que je formate, que comme une mise à zéro, en fait. Ce qu'on oublie un petit peu, c'est que notre cerveau, c'est comme un ordinateur. C'est... Tu dois remettre des disques durs dedans, tu dois l'updater.
Exactement.
Tu sais, tu dois mettre une nouvelle version dedans. Et c'est un truc que j'apprends encore maintenant. Et des fois, j'ai besoin vraiment de me retrouver dans ma bulle, sans télé, sans téléphone, rien, juste écrire et de pouvoir me formater pour devenir la meilleure version de moi-même.
D'accord. Tu as également été entrepreneuse, Aurélie. Alors, aujourd'hui, tu es dans la déco, on va en parler. Mais tu as aussi créé une marque de vêtements, je crois, que tu as arrêté. Est-ce que tu peux me parler de ce projet ?
Alors, la marque de vêtements, c'était une collaboration avec un magasin multimarque ici en Belgique.
Ouais.
Et en fait, tu sais, à un moment donné, dans ce business-là, tu te dis, OK, je fais de la publicité pour des magasins. Donc, OK, eux, ils me payent, tu sais, un post et des stories. Mais au final, à quoi bon toujours faire de la publicité pour les autres ? Pourquoi est-ce que je ne ferais pas mon propre produit et faire de la publicité pour mon propre produit ? J'ai adoré vraiment toute cette période où il a fallu créer les vêtements, etc. Sauf que la première collection est sortie en plein Covid. Donc ça, ça n'a pas été une énorme réussite. On a fait 3 drops. Et sincèrement, vu que c'était des collections, tu sais, à mettre pendant des baptêmes, des mariages, ci et ça, mais tous les rassemblements étaient interdits. Voilà, on n'a pas fait énormément de pertes, mais on n'a pas fait énormément de bénéfices non plus. Mais c'était une très chouette expérience.
D'accord. Et tu l'as arrêté parce que, ouais, t'avais peut-être d'autres projets. Enfin, il n'y avait pas...
Tu sais, quand tu fais une marque de fringues, il y a énormément d'investissements
ouais,
derrière.
Bien sûr.
De temps, que ce soit financièrement. Et que, à un moment donné, il faut faire un choix. Quand tu vois que ça décolle pas, tu t'essayes une fois, t'essayes deux fois, t'essayes trois fois. Et à un moment donné, il faut pouvoir accepter que cela n'a pas l'effet escompté. Donc, voilà, on se dit, OK, c'est pas grave, j'ai tenté, j'ai essayé, j'ai appris plein de choses, c'est pas grave, on met sur le côté et on continue d'autres choses.
Ouais. Aujourd'hui, toi, tu fais de l'influence, du coup, t'es créatrice de contenu, t'as une chaîne YouTube décoration, tu rénoves des intérieurs,
oui.
Tu es maman. Comment tu gères tout ça au quotidien ?
c'est une question qui revient souvent.
Ouais,
je suis tout le temps occupée. Comment je gère ? Ben, en fait, tu sais, quand tu es indépendante, on a ce luxe de pouvoir un petit peu emménager notre temps comme on veut. Pour moi, le temps avec mon fils est primordial. C'est très important. J'ai envie de passer un maximum de temps avec lui. Donc voilà, le matin, je me lève, je dépose le petit à l'école. Pendant qu'il est à l'école, je bosse un max. Puis je vais le chercher et on va dire qu'en fait, moi, ma pause de midi, elle est de 16 à 19h30, tu vois. Comme ça, je passe vraiment mon temps avec lui et c'est là où j'enclenche le mode maman.
Ouais.
Et une fois qu'il est au lit, souvent, je bosse encore jusqu'à 21h, 22h.
D'accord. Et ce petit garçon, d'ailleurs, au départ, tu avais fait le choix de ne pas l'exposer sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu le fais. Qu'est-ce qui t'a fait finalement changer d'avis sur ce sujet, sur le sujet ?
En fait, au début, j'ai pas voulu l'exposer quand il était tout bébé. Mais c'était un accord avec son papa parce que, voilà, parce que déjà en plus de ça, j'étais novice dans tout ce qui était blogging, etc. Et je sais pas, il était bébé, il était encore trop fragile et je sortais de ce noyau de télé-réalité. Et donc moi, ces gens-là, j'avais pas envie de leur ouvrir justement tout mon cocon familial. Et puis il a commencé à grandir, le petit, et on a commencé à être invités dans des super endroits avec le petit. Et j'avais envie de partager un petit peu plus de mon cocon privé à ces nanas qui sont vraiment là et qui sont bienveillantes et qui me suivent tous les jours. Et j'avais envie aussi de leur montrer mon côté maman, que ce soit le côté chouette, mais le côté parfois pas facile, le côté plus compliqué. Ça fait partie de ma vie et au final, comme je te l'ai dit là tout à l'heure, comme je ne suis pas concentrée que sur un sujet, sur mes réseaux sociaux, que je montre tout, que je partage tout, ben, Farrell, c'est 90% de ma vie. Donc, c'était logique que je partage mon fils. Après, je pense pas être une maman qui surexpose son enfant. Au contraire, je pense que tout le monde sait que je suis une maman, qu'il y a le petit, qu'on fait plein de choses. Mais Depuis qu'il est petit, je m'étais mise une règle, c'était que je lui demandais tout le temps, est-ce que je peux te filmer avant de le filmer? Et donc, c'est lui qui décide oui ou non.
D'accord.
Et non, et ben, alors je ne filmais pas.
Ouais, c'est un vrai débat, ça, de montrer ou pas ses enfants. Je pense que c'est un vrai sujet que tout le monde a. Et t'en as même, l'autre jour, je discutais avec un ami. Lui, il n'expose pas ses enfants. Et donc, ses enfants lui disent, mais en fait, tu ne me montres pas parce que je ne suis pas beau, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans mon physique. Enfin, tu vois, donc, même dans le, dans le truc inverse, les enfants peuvent le prendre mal. Donc, tu ne sais plus quoi faire, en fait.
Moi, ça a été un vrai sujet aussi. C'est compliqué parce que, par exemple, moi, mon ex-beau-fils, voilà, c'était un accord entre les parents qu'il ne pouvait pas être sur les réseaux sociaux. Mais donc, du coup, moi, il voyait que je filmais moi, mon fils. Et donc, voilà, il se sentait vraiment mis à l'écart. Et souvent, il me disait, mais pourquoi est-ce que tu ne veux pas me filmer? Et il pensait que c'était moi qui ne voulais pas, alors que c'était un accord des parents qu'il fallait évidemment respecter. Parce que voilà, que ce soit oui ou non, je pense qu'il n'y en a pas, qu'il n'y en a pas un des deux qui est meilleur que l'autre. Mais pour un enfant, ça peut être compliqué à comprendre, surtout que à partir d'un certain âge, à partir du moment où ils rentrent en CP, en première primaire, en fait, ils entendent ces mots et puis ils voient leurs parents aller sur Instagram.
Exactement.
Et donc ils se disent mais pourquoi ? Et donc ça peut être vraiment vécu comme une injustice. Donc, je pense qu'il faut vraiment communiquer sur le sujet avec ses enfants et de leur expliquer pourquoi oui ou pourquoi pas ou pourquoi à telle fréquence, et etc. quoi.
Exactement. Mais il n'y a rien de pire, je pense, que nous, on a une utilisation accrue des réseaux sociaux. Moi, je suis comme toi, je suis vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup sur Instagram. Et du coup, je pense qu'il n'y a rien de pire pour des enfants de voir leurs parents sur Instagram, de voir leurs parents connectés et de se dire, bah ouais, mais pas pouvoir toucher, pas pouvoir... Enfin...
Au final, c'est souvent les peurs, les inquiétudes des parents qui leur font faire des choix comme ça. Mais les parents ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de eux-mêmes cultiver des petites graines, soit de peur, soit d'injustice ou quoi que ce soit, chez leurs propres enfants. Il faut juste essayer de trouver un terrain d'entente. Si un enfant a envie d'y être, qu'il ait 7 ans, qu'il ait 9 ans, s'il se dit ben, « j'ai envie que papa partage une photo de moi sur les réseaux sociaux ben, », c'est pas parce que c'est un enfant que cet enfant ne peut pas être entendu. Ça, c'est mon point de vue. Tu vois, j'ai l'impression que même s'il a 6 ans, bah tu peux lui faire, tu fais une petite photo, tu le mets en privé, tu fais semblant de poster la photo et comme ça la personne n'a pas l'impression que qu'il y a une injustice, tu comprends ?
Exactement. Il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est le fameux syndrome de l'imposteur qui est plus féminin d'ailleurs que masculin. Toi, dans tout ce que tu as pu voilà, accomplir, faire, est-ce que ça a été un sujet ? Est-ce que tu l'as déjà ressenti ? Et si oui, comment tu l'as dépassé ?
Non, c'est très honnêtement pas quelque chose que j'ai déjà ressenti. Alors, bah, souvent on dit, tu sais, dans le syndrome de l'imposteur, bah, déjà, je ne sais pas si on peut appeler ça un syndrome, parce que je ne sais pas si c'est vraiment médical. Je pense que c'est une phase, tu sais, dans la vie que ça peut arriver parce que t'as l'impression que le succès qui est là devant toi, bah tu l'as pas mérité, tu sais. Mais je pense que tout ça est à prendre avec des pincettes et qu'il y a plusieurs degrés parce qu'on a tous eu la peur de l'échec, le doute, de l'anxiété. On s'est tous à un moment donné dit, mais en fait, waouh, ça démarre en une fois, mais Est-ce que je le mérite vraiment ? Est-ce que j'ai mérité tout ça ? Et finalement, je pense que c'est quand même sain quand tu es entrepreneur, quand tu bosses, quand tu t'acharnes. C'est normal d'avoir peur, c'est normal de ressentir de l'anxiété. Tout ça est normal. Après, je n'ai jamais eu vraiment, comme on peut dire, ce phénomène de l'imposteur où je me dis « Ouh là là, tout ce que j'ai aujourd'hui, je ne l'ai pas mérité. » Non, parce que j'ai sué, j'ai été ouvrir les portes, je me suis démenée, voilà, j'ai tout fait pour. Et au final, moi, c'est l'inverse. Je le vois comme une gratitude. La semaine dernière, j'étais à Dubaï pour l'ouverture du nouvel hôtel l'Atlantis Le Royal. Tu sais, je me suis vraiment sentie privilégiée de pouvoir assister à ce concert en privé avec Beyoncé, qui était, by the way, incroyable. Et en fait, je me suis arrêtée un instant et j'ai regardé autour de moi et j'ai dit, mais waouh, merci quoi. Merci à la vie de m'offrir ça. Merci de m'avoir donné l'opportunité de me battre, d'avoir travaillé autant. Et c'est juste merci. Tu vois, je pense qu'il faut transformer cette peur et cette anxiété et ce doute de « oh, j'ai pas mérité ça » en « merci, quoi. Merci la vie de m'apporter tout ça. »
Exactement. Et ben, c'est un très beau message, exprimer de la gratitude. Ça génère des émotions positives et on en a besoin. Et t'as bien raison de le voir comme ça. Oui, bien sûr, j'ai suivi. Moi, j'ai vécu à Dubaï pendant 3 ans, là. Je viens juste de revenir à Paris. Donc j'ai bien entendu suivi cette, cette ouverture du Nouvel Atlantis. Quels sont tes prochains défis aujourd'hui, Aurélie?
Eh bien, justement, Laura, tu sais, comme je me suis vraiment complètement ouverte au développement personnel et à tout ce qui est la spiritualité, c'est un sujet sur lequel j'ai vraiment envie de m'attarder, de me concentrer dessus et de pouvoir partager un petit peu plus de toutes ces choses-là sur mes réseaux. J'aimerais bien peut-être justement commencer à faire quelques petits podcasts sur le développement personnel, comment s'en sortir, comment choisir les bonnes personnes pour pouvoir sortir la tête de l'eau, etc. Mais il faut trouver le temps parce que à côté de ça, voilà, comme on s'est dit, je fais quand même pas mal de création de contenu pour les marques. J'ai pas mal de chantiers qui sont en cours. Niveau décoration et plus mon émission de déco qui s'appelle La Touche Dorée, qui va bientôt être aussi sur des plateformes télé. Donc voilà, il y a plein de choses, mais c'est clair que là, tout ce qui est développement personnel m'attire énormément et que j'ai envie de continuer sur cet axe-là. Et je me suis même dit que cet été, j'aimerais beaucoup voir si ça se met, mais j'aimerais bien partir, tu sais, quelques semaines, mais hors connexion, pour pouvoir aller à l'autre bout du monde et explorer tout ça.
Trop bien. Bah, en fait, quand t'as mis un pied dans le développement personnel, après, c'est impossible en fait d'arrêter parce que c'est un chemin d'une vie. Il y a toujours des nouvelles pratiques à découvrir. Et d'ailleurs, qu'est-ce que t'aimerais dire à la petite Aurélie, en fait, tout simplement. Qu'est-ce que tu aimerais lui dire aujourd'hui?
Alors, premièrement, la première chose que je ferais à la petite Aurélie, c'est que je la prendrais très fort dans les bras et que je lui dirais que ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Parce que la petite Aurélie avait peur de la solitude et au final, seule ou pas, j'y suis toujours arrivée. Aujourd'hui, tout ce que j'ai eu, c'est grâce à moi. Et donc, je voudrais lui dire que n'aie pas peur, tout va bien se passer et tu es une petite fille exceptionnelle et tu deviendras une super femme, une super nana.
Génial. On va finir par des petites questions. Ta plus grande peur?
La solitude, justement.
Ta routine pour être en bonne forme physique et mentale?
Des compléments alimentaires, de la lecture et de l'exercice.
Un échec que tu aurais vécu et une leçon que tu en as tirée?
Justement, ma dernière relation amoureuse.
Et tu en as tiré cette leçon de travailler sur toi et de ne plus répéter ces schémas.
Voilà, exactement. En fait, la leçon, ça a été de « Ok Aurélie, quel est le souci en toi? Pourquoi est-ce que tu attires ce genre de personnes? Qu'est-ce qu'on essaye de te faire comprendre et quelles sont les blessures que tu as besoin de guérir pour devenir une meilleure personne? »
Tes citations préférées?
Alors, mes citations préférées, genre « On attire ce que l'on est » ou « My ultimate goal, c'est d'être la plus heureuse, la plus alignée, mais mentalement, physiquement, financièrement et spirituellement de la pièce. »
Ton ou tes mentors?
Eh ben, tu sais quoi, j'ai pas vraiment de mentor. J'ai pas de mentor. J'adore suivre plein de personnes et ces personnes m'inspirent, mais je n'ai pas de mentor à proprement dit.
Ton plus grand rêve?
Eh ben là, je vais te dire que mon plus grand rêve, c'est encore une fois d'atteindre mon ultimate goal et donc d'être émotionnellement, personnellement, spirituellement, physiquement vraiment alignée et de pouvoir trouver ce juste équilibre et de me sentir 100% accomplie.
Les questions que l'on te pose le plus?
Si je revois encore les anciens candidats de Secret Story.
Et la réponse?
Et non, je ne vois plus personne depuis bien longtemps.
Sur tout ce que tu as appris, alors ton jeune âge, hein, bien sûr, tu devais retenir qu'une chose.
que la vie est magique et qu'on a chacun une mission de vie ici et qu'au plus tôt on la comprend, au mieux on vit.
Et que t'évoque, ma dernière question qui est ma question routine du podcast, rituel du podcast, que t'évoque maximiser le potentiel de sa vie ?
Alors maximiser le potentiel de sa vie, ben, je reviendrai toujours au même point parce que pour moi c'est un équilibre entre l'émotionnel, personnel, le spirituel, le physique, le côté business. C'est de trouver son chemin et trouver l'équilibre parfait qui va changer hein, au quotidien parce qu'un jour ce sera un petit peu plus émotionnel, l'autre un petit peu plus physique, etc. pour pouvoir être le plus aligné avec tes principes, tes valeurs, pour t'aimer en fait simplement et te sentir accompli.
Merci beaucoup Aurélie.
Merci Laura. Bonne journée.
Bonne journée. Cet épisode est maintenant terminé. En espérant qu'il vous ait plu, je vous donne rendez-vous maintenant sur le compte Instagram lalea.podcast pour découvrir les coulisses de l'interview.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt. So throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.